Radio Campus Tour, 99.5 FM.
Martine Pelletier, du service culturel de l'Université François Rabelais, présente les résidences d'artistes. Vous entendrez également un mot de David Christoffel, artiste en résidence pour cette année universitaire. Entre ces deux interviews, vous entendrez des créations sonores faites par les étudiants participant à l'atelier de création radiophonique de David Christoffel et réalisé avec Radio Campus.
Vous accueillez tous les ans un nouveau artiste en résidence et vous avez pu accueillir des gens connus hein, comme Larfi, il y a eu Franck Zonleu aussi qui était marionnettiste. Cette année, c'est David Christoffel. J'aimerais que vous nous disiez un mot sur comment sont organisées ces résidences, comment vous repérez les artistes et comment vous construisez une proposition avec eux.
Alors les résidences d'artistes, c'est vraiment une des marques de fabrique de la politique culturelle de l'université, avec une construction un peu spécifique, puisque nous faisons une sorte de carte blanche à un artiste ou à un collectif d'artistes pendant une année, le pari étant que la présence de cet artiste diffuse dans l'université, que cet artiste puisse intervenir, puisse construire, puisse se fondre dans l'université et bousculer un petit peu l'université, avec dans le cahier des charges la nécessité que sa proposition artistique, puisqu'il crée quelque chose, soit construite avec un groupe d'étudiants, et ce qui est aussi un défi, un pari, qu'il le construise avec des étudiants qui ne sont pas nécessairement tous des spécialistes, puisque nous sommes une grande université pluridisciplinaire et que notre service doit proposer des activités dans lesquelles des étudiants issus de filières variées, ayant une fréquentation différente de la culture, puissent se retrouver. C'est-à-dire que nous avons autant des propositions d'investissement, d'implication importante pour des étudiants qui peuvent vouloir aller plus loin, qui ont déjà une habitude, on va dire, de la culture, mais aussi des propositions simples, ouvertes, très accessibles, qui visent à sensibiliser, à poursuivre les efforts qui sont faits pour amener les étudiants vers des propositions culturelles diverses. Donc cet artiste ou ce groupe d'artistes a un cahier des charges un petit peu lourd, mais auquel il se prête vraiment bien volontiers, avec d'une part un laboratoire de création, mais aussi la possibilité, l'encouragement à intervenir dans les filières pour toucher un assez grand nombre d'étudiants, et puis pour aussi permettre aux enseignants de confronter leur propre logique d'enseignement, de recherche, puisque dans l'université, nous avons très majoritairement des collègues qui effectuent une recherche, et on le sait, il y a des croisements fructueux entre la recherche dans le domaine artistique et la recherche au sens plus scientifique ou universitaire du terme, et faire intervenir un artiste dans un de ses enseignements, c'est toujours créer une dynamique différente, ouvrir de nouvelles perspectives, entendre une autre voix, quelqu'un qui pense autrement et qui permet aux étudiants de réfléchir différemment ou d'intégrer des propos différents à leur réflexion. Et nous essayons d'avoir aussi des manifestations avec une visibilité sur le territoire, c'est-à-dire que très souvent les artistes sont incités à, ma collègue Cécile programme dans le cadre de la programmation professionnelle de l'université des manifestations en lien avec la résidence d'artistes pour construire une sorte de parcours, et puis les étudiants et l'artiste, à la fin, en fin de parcours, montre également au grand public le résultat, la production. Et là, vous parliez à l'instant de David Christoffel, qui est notre artiste en résidence. Il est poète, musicologue, designer sonore. Et il a travaillé toute l'année avec des étudiants autour du détournement de textes scientifiques, de la poésie détournée de textes un peu désuets, totalement farfelus. Et les étudiants qui ont participé à l'atelier, et ensuite de leur mise en espace sonore. Il y a eu des étudiants de l'IUT du département Géodésie qui ont construit une machine pour diffuser ces enregistrements sur un mode interactif, et donc pendant tout le mois de mars, la machine, l'arbre à son va circuler en différents lieux de l'université. Et nous avons aussi décidé de détourner les codes jusqu'au bout, puisque dans la culture scientifique, il y a depuis quelques années une manifestation manifestation qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. C'est une manière d'encourager des étudiants doctorants, donc qui préparent leur thèse à l'université, à expliciter en un temps court les enjeux de leur projet scientifique pour le grand public. Et là, nous avons décidé de détourner la thèse en 180 secondes en proposant une soirée « Ma fausse thèse en 180 secondes » puisque les étudiants présenteront le résultat de leurs écritures et mises en son réalisées avec David Christoffel tout au long de l'année. Alors, la date, c'est une très bonne question. Je la regarde tout de suite. C'est le mardi 29 mars.
Voilà, donc rendez-vous mardi 29 mars. Et je crois aussi que, puisqu'on parlait des mercredis de Télème, hein, salle Télème, je crois que David Christoffel fera aussi une conférence, il me semble.
Tout à fait. C'est mercredi. Alors, les mercredis de Télème, ce sont donc ces conférences très grand public, mais qui permettent majoritairement à des collègues enseignants, chercheurs de l'Université de Tours, autour d'une thématique choisie pour le semestre ou pour l'année et qui a différentes entrées disciplinaires, puisque c'est aussi montrer comment un même objet intellectuel et scientifique peut être abordé par différents biais, par différentes disciplines. Donc là, cette année, en écho à la résidence de David Christoffel, nous avons choisi de travailler autour de l'idée du son, avec un titre qui est dans le son « Tout est bon ». Et donc, David Christoffel interviendra ce mercredi 9 mars, salle Télème à 18h30. Les mercredis de Télème, c'est toujours à Télème et c'est toujours le mercredi à 18h30, autour des questions de métaphore musicale dans la gastronomie.
Pour finir avec ces résidences, quand même, puisque tous les ans vous essayez, je crois, d'avoir une discipline différente, en fait, d'avoir quelque chose le plus large possible. Et je voudrais savoir comment vous repérez un artiste, en fait, comment vous les choisissez, parce que c'est toujours des choses de grande qualité. Et du coup, comment vous arrivez à les décider à venir ici?
Alors, merci Mélissa, c'est très gentil. Puis en plus, je sais que vous suivez ces résidences avec attention depuis plusieurs années, donc votre compliment nous touche d'autant plus. C'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que il faut, bien sûr, nous souhaitons varier les propositions qui sont faites, parce que l'art est divers, multiple, varié, et c'est important que l'université, dans ses choix d'artistes en résidence, reflète cette diversité des pratiques et des approches. Donc, voilà, nous travaillons avec cette préoccupation à l'esprit. Nous sommes aussi très à l'écoute de collègues enseignants-chercheurs qui travaillent dans des secteurs où ils peuvent être au contact d'artistes et où ils peuvent, du coup, identifier des artistes dont le travail serait particulièrement pertinent dans une université. Ça a été, par exemple, le cas pour les deux résidences que nous avons menées avec Vincent Cotreau, notre collègue de musique et musicologie, spécialiste de jazz et musique improvisée, qui avait identifié tout d'abord Marc Ducret, le guitariste, et puis Larfi, dans une très belle résidence avec le Petit Faucheux, Jazz à Tours et le Conservatoire. Ça a été également le cas lorsque nous avons eu une résidence d'artistes autour de la bande dessinée, en fait, beaucoup plus du détournement d'image que stricto sensu de la bande dessinée, avec Marc-Antoine Mathieu qui nous a été amené par notre collègue Laurent Gerbier, spécialiste des rapports texte et image et du récit en image du texte et image. Donc il y a ces moyens de repérage, et puis il y a aussi tout le travail que nous menons. Et là, je reviens au passeport culturel étudiant que notre médiatrice culturelle Christelle Berthier défend si bien. Donc, le passeport culturel étudiant nous permet d'avoir un réseau d'une soixantaine de partenaires culturels sur le territoire qui deviennent nos amis et nos alliés lorsqu'il s'agit d'identifier des artistes. Ainsi, quand nous avons souhaité faire la résidence en partenariat, une résidence autour de la danse contemporaine, nous sommes naturellement allés à la fois vers notre collègue enseignante de danse au SUAPS, mais aussi vers le Centre chorégraphique national de Tours. Et c'est ainsi que nous avons identifié Raphaël Cotin, qui a mené cette très belle résidence Ligne de cœur. Voilà, donc c'est aussi cela. Là, par exemple, pour les résidences autour de l'écriture, et nous nous étions rapprochés et de Cyclic, et de la Maison des écrivains et de la littérature. Et ainsi, nous expliquons un peu ce que nous souhaitons faire. Nous faisons le tour de collègues dans le secteur pour identifier identifier des personnes. Voilà, nous essayons que ça soit quelque chose qui est le plus collectif possible pour que l'artiste choisi soit à l'aise, que le projet retenu corresponde. Il faut que l'artiste s'y retrouve aussi. C'est important pour que les étudiants qui y participent et les collègues enseignants-chercheurs et le grand public s'y retrouvent également.
Dans les songes, l'imagination et la mémoire agissent indépendantes de tous les sens externes et sans être troublées par l'impression des objets environnants. Je cite, en faisant toute réserve, quant à l'assertion en elle-même. L'âme, dégagée des liens qui l'enchaînent au corps, semble être abandonnée à son activité propre et primitive. Elle combine des idées, elle établit des raisonnements auxquels les sensations et l'intelligence animale ne pourraient donner lieu dans l'état de veille. Des impressions, oubliées depuis longtemps, se retracent avec de nouvelles couleurs plus vives. L'âme se transporte dans un monde créé par elle, où rarement les images claires des lieux ou du temps donnent aux idées cette vérité qu'elles n'acquièrent que par le concours des sens. Comment supposer, d'après cela, que l'homme de la nature, étranger aux lois qui régissent le corps et l'âme, n'attribue pas les sensations qu'il éprouve en songe à l'intervention d'un génie ou d'un être de son espèce, auquel il a d'ailleurs coutume de rapporter tous les effets dont la cause n'est pas évidente pour lui? Il arrive parfois que nous rêvons des situations bizarres, ayant en quelque sorte le caractère de pressentiment, c'est-à-dire que des états possibles s'offrent à nous comme des idéalités imagées. Et l'événement peut ensuite s'accorder avec notre rêve, sans qu'il y ait là rien de merveilleux. Par exemple, une personne nous intéresse vivement. Nous la connaissons assez bien sans être toutefois parfaitement édifiés sur son compte. Nous la croyons franche et véridique, et cependant nous avons quelques sujets de soupçonner qu'elle ne possède pas réellement ses qualités. En rêvant d'elle, nous la plaçons dans des situations qui font ressortir son défaut de franchise et de véracité. Qu'ensuite, nos soupçons à son égard viennent à se justifier, le rêve que nous avons eu paraît surprenant, et cependant il ne l'est pas. Savons-nous bien en effet jusqu'où cette puissance de regarder en nous-mêmes saurait s'étendre, si la lumière qui éclaire notre entendement pouvait augmenter d'intensité? Connaissons-nous bien toutes les secrètes communications qui peuvent exister dans le monde qui nous entoure, entre nous-mêmes des uns aux autres, comme entre nous, et tout ce que nous voyons ou ne voyons pas?
Bonjour David Christoffel.
Bonjour.
Alors, vous aviez invité Monsieur Robotier à la Fac des Tanneurs pour une soirée de présentation, enfin un événement avec Élise Caron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà pourquoi vous avez choisi d'inviter ces deux personnes dans le cadre de votre résidence?
Alors en fait, c'est né d'une fascination que j'ai pour le travail d'un autre artiste que l'on a entendu dans cette soirée, c'est Pierre Charial, qui en fait, on pourrait dire, est organiste, puisqu'il crée des cartons pour Orgue de Barbarie. Il est lui-même luthier d'Orgue de Barbarie, et il s'est mis à jouer à Orgue de Barbarie des répertoires comme les études de Ligeti, et il a travaillé avec Robotier, qui est aussi compositeur, pour des sortes de petites pièces que Robotier a composées pour Orgue de Barbarie et Voix parlée, qui sont des sortes de chansons parlées, on pourrait dire, que dit justement Élise Caron. Et ce qui m'intéresse dans le travail de Robotier, qui plus est par rapport à la résidence à Tours, c'est qu'il travaille le texte qu'il régénère sur des espèces de modèles mathématiques, de combinatoires, enfin une capacité comme ça à travailler la logique dans le texte sans une finalité de démonstration, mais une logique qui s'entend comme pensée vivante au travail, et que sa collusion avec la musique est souvent mise à contribution pour justement faire marcher comme ça mécaniquement la pensée.
Et donc c'est savant, mais c'est drôle aussi, quand même, il faut le dire.
Ben oui, parce que effectivement, ça joue du sens, du non-sens, de l'absurdité. Enfin, ça finit par créer une espèce de pas de côté par rapport aux phrases qu'on peut prononcer chaque jour, et puis qui, dans nos bouches du quotidien, peuvent être des phrases qui sont un peu mortes, enfin, qui n'ont plus de sens parce qu'à force de les employer. Et là, comme elles reprennent sens et elles reprennent vie, mais de façon un peu artificielle, comme une espèce de marionnette, effectivement, ça devient drôle. En même temps, qui est un peu tragique, parce que ça nous révèle quand même que la majeure partie de ce qu'on dit, on le dit avec assez peu d'intention de signifier grand-chose.
Alors, seconde étape ou étape suivante de ce travail avec Rebottier, c'est le faire travailler avec les étudiants. Alors,
moi, j'attends pas qu'il travaille le corpus de Rebottier lui-même. J'attends qu'il soit en contact avec, effectivement, la puissance de joie qu'il peut y avoir à manipuler des espèces de matériaux textuels d'origine théorique ou scientifique, et de se dire que des argumentations qui peuvent avoir quelque chose d'un peu acrobatique donne envie de continuer l'acrobatie, de gagner soi-même en souplesse de pensée pour, on va dire, pouvoir continuer à dire n'importe quoi, mais avec du panache.
Voilà, merci.
Alors, elles sont vivantes, là, vous croyez ?
Rats, petites bestioles, produits stérilisants, sperme ou urine, la liste des fâcheux ingrédients dont se compose notre alimentation déjà contaminée et déjà riche. La pensée emblématique va cependant plus loin, et toute une famille de Russie met en scène la transgression majeure du cannibalisme. Le motif du doigt coupé dans le pain est le modèle d'une série de récits relatant la découverte d'un morceau de corps humain dans la nourriture. C'est un parfait exemple du quotidien piégé. Voici que le geste banal de mordre dans un petit pain se révèle répugnant et dangereux. Les récits associent le plus souvent le pain et le doigt, dont la présence est vraisemblable et symbolique. La transgression cannibale est également consommée avec les récits qui déclinent le motif du cadavre dans la cuve. C'est en effet longtemps après que tout le vin qu'elle contenait a été vendu et dispersé que l'on s'aperçoit qu'elle recelait un cadavre. L'histoire a affecté de nombreux négociants grossistes en vin dans les années 60 et 80 en France. Elle concernait les vins en provenance d'Algérie, le cadavre malencontreux étant celui d'un Algérien, souvent décédé de mort violente. Le réceptacle était soit un bateau-citerne, soit une grande cuve de stockage, et la contamination, donc, considérable. Dans la même mouvance d'accusations contre l'industrie alimentaire et ses négligences, la jungle d'Upton Sinclair affirmait l'existence fréquente d'accidents, les cadavres des ouvriers tombés dans les cuves, finissant en saucisses ou pâtés. Dans les villes d'Europe, les accusations de commerce de chair humaine visant non pas l'industrie négligente, mais l'artisan criminel sont très anciennes. À Londres, Sweeney Todd et sa complice, la charcutière Mrs. Lovett. À Paris, le barbier et le charcutier de la rue de Marmousset. Des histoires de ce genre ont circulé dans l'Allemagne des années 20, comme dans le Berlin de 1946, où les anecdotes stéréotypées de sauvetage in extremis concernent le trafic de chair humaine et non plus la traite des blanches. Cependant, elles ne fonctionnent plus chez nous aujourd'hui comme des légendes contemporaines. Il en va autrement dans les mégalopoles déstructurées du tiers-monde, secouées à intervalles réguliers par des accusations de commerce de chair humaine qui entraînent désordres et émeutes.
Magnifique victoire. Un
amusement. Radio Campus Tour, 99.5 FM.